Travailleurs de l'ombre, présenté par Simon Bulbaudin et réalisé par Thomas Yayani. On parle des métiers du quotidien tous les derniers lundis du mois à 18h. Et c'est sur Radio Campus Paris.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Travailleurs de l'ombre, l'émission qui met en lumière les métiers essentiels dont on ne parle pas assez. Un quatrième épisode consacré cette fois au métier de la conception de jeux vidéo. Pour en parler avec nous, je reçois en plateau Pierre-Étienne Marx. Bonjour.
Bonjour.
Syndicaliste au syndicat des travailleurs du jeu vidéo STJV et salarié chez Ubisoft Paris au poste de directeur technique narration. Ouais. Avec nous aussi aujourd'hui en ligne depuis Montréal, Alexis Foisy, bonjour.
Bonjour.
Donc artiste de niveau à Warner Bros. Games. Pour commencer, Alexis Foisy, si vous pouviez nous résumer brièvement comment on fait un jeu vidéo, plutôt quel corps de métier y participe, on va dire.
Oui, en premier, il va y avoir une phase un peu d'idéation et conception que les personnes avec le plus de enthousiastes, on va dire ceux qui ont les idées, les directeurs, quoi, qui vont commencer, donc des petites équipes pour ensuite aller vers des pré-productions avec personnes ou, par exemple, comme moi, qui va commencer à rentrer dans le jeu et commencer à faire conceptualiser un peu les niveaux pour mon cas. Et tout ça jusqu'à ce que, par exemple, on arrive à la fin en production avec des énormes équipes. Donc, ça y avait beaucoup. Donc, c'est tout les résumés dans si peu de temps. C'est très compliqué, mais je peux au moins vous parler un peu de comment moi je peux faire mon métier, par exemple, pendant ces phases de substitution.
Oui, tout à fait. Ça consiste en quoi ce métier que vous faites, artiste de niveau?
Oui, donc artiste de niveau, c'est vraiment c'est celui qui va habiter de niveau. Donc au début, je reçois en fait un block-out qui est vraiment pour vulgariser un peu la chose, c'est des gros blocs gris quoi qui vont un peu ressembler à qu'est-ce qui pourrait ressembler au niveau. Comme par exemple, il va peut-être avoir une maison, bon, ben, là, il va avoir le toit, puis une boîte en dessous, quoi. Il n'y a rien de plus, mais après, moi, je vais arriver pour mettre les textures, le visuel, tous les petits détails, quoi, qu'on peut retrouver, pour rendre la chose jolie aux joueurs. Donc, en général, c'est des phases qui vont assez long, parce que ça peut prendre des fois un mois plus sur des niveaux, mais à la fin c'est vraiment un travail d'équipe avec les artistes et ceux qui vont conceptualiser les niveaux à la base.
Et Pierre-Étienne Marx, excusez-moi, ça consiste en quoi, directeur technique narration?
Alors c'est un titre un peu bizarre dans le jeu vidéo. Il y a un certain nombre de bizarreries entre les studios, des titres qui correspondent pas forcément. Moi, chez Ubisoft, ce qu'on peut faire, c'est que je suis un peu un designer technique, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de bosser avec les équipes design pour prendre les idées de design qu'on a, les fonctionnalités qu'on voudrait, etc., et ensuite aller bosser avec les programmeurs, avec même l'équipe tech, hein, donc les gens qui sont vraiment les architectes, on va dire, logiciels, et défendre le design, discuter de comment on peut le faire avec les éléments qu'on a, et potentiellement aider soit à spécifier certains besoins, soit à prototyper aussi, truc dont on a beaucoup besoin quand on commence à faire des briques de jeu, quoi.
Alexis, pour Warner Bros. Game, t'as participé à la conception de quel jeu vidéo, ou même par le passé, quel jeu vidéo t'as pu concevoir ou participer à cette conception?
Donc j'ai mon premier en fait c'était Gotham Knights, un jeu qui est sorti en 2022, et aussi sur la conceptualisation de Mortal Kombat 1, le reboot qui a été sorti pas très longtemps.
En revenant à ça, Pierre-Étienne Marx, vous travaillez pour une grosse entreprise française bien connue, donc Ubisoft. Alors moi, Ubisoft, j'en suis resté à Rayman 2, donc un peu à l'ancienne. Mais depuis, il y a eu Prince of Persia, mais surtout Assassin's Creed. En parlant de ça, le dernier Assassin's Creed, Shadows, est sorti il y a 3 mois, le 20 mars. Quel est le bilan ? Vous avez évité la crise ou pas ?
Oui, c'est ce sur quoi on semble aller. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les ventes de jeux, elles sont vachement étalées. En fait, on était sur des logiques où c'était vraiment, il fallait faire les ventes jour 1, hein, day one vente. Et en fait, maintenant, bah, on a une notion de production de contenu sur le long terme et donc de réactiver des ventes, etc. Donc, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne compare pas forcément toujours la même chose, et en plus on va comparer des trucs. Par exemple, le dernier opus d'Assassin's Creed avant, c'était Valhalla, qui est sorti en plein Covid, donc évidemment comparer les ventes de jeux vidéo hors et pendant Covid, c'est compliqué, enfin pendant confinement et hors de confinement, c'est compliqué. Mais en tout cas, a priori, les indicateurs sont bons, tant mieux.
Voilà, tant mieux parce qu'il y a plus, c'était un peu le tout pour le tout, ce jeu.
Bah, c'est en tout cas, c'est comme ça que c'était présenté. C'est difficile pour nous parce que justement au sein des entreprises, c'est assez opaque en fait sur ces choses-là, c'est-à-dire qu'on nous présente, on nous dit c'est ça va pas, c'est grave, c'est pas grave, le jeu a bien fonctionné, mais nous on n'a pas forcément beaucoup d'informations. D'ailleurs, par exemple chez Ubisoft, pendant longtemps on avait accès aux données de vente de manière assez libre en interne, et depuis depuis l'année dernière en fait c'est beaucoup restreint, et désormais il y a que les gens entre guillemets du top management qui ont accès à ça.
Et ça a coûté combien environ
Alors, je sais pas si j'ai trop le droit de le dire exact, non, mais en tout cas, je peux donner quand même une idée. C'est que un Assassin's Creed, en général, c'est de l'ordre de 2 à 300 millions d'euros de budget. Sur Shadows, c'est peut-être un peu plus parce qu'il a duré plus longtemps sur le développement. Il y a eu des délais, donc forcément, ça a dû un peu rajouter. Ouais. Mais en tout cas, dans l'industrie, en général, on dit les AAA, ouais, c'est de l'ordre de 100 millions et plus. Et après... pour le top end, on va dire, c'est le dernier Call of Duty qui est sorti l'année dernière, c'est 700 millions de budget. Et GTA 6 qui sort l'année prochaine, tout le monde s'accorde à dire qu'au total, il aura sûrement eu un budget de plus d'un milliard.
Oui, donc ça veut dire que par rapport à une industrie comme celle du cinéma, on va au-delà en fait maintenant avec le jeu vidéo.
Sur les plus gros, ouais. Je pense que voilà, en moyenne, un gros jeu vidéo, c'est un budget blockbuster ou équivalent, et il y a des, on va dire, des anomalies qui dépensent encore plus.
Pour continuer, Pierre-Étienne Marx, il y a peu de temps sortait Clair Obscur, Expédition 33, alors c'est un grand succès à l'international. Ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ça vient d'un petit studio indépendant, le Montpellierin Kepler Interactive. Comment on explique ce succès, et ces petits studios, est-ce qu'ils vont devenir des menaces pour les mastodontes comme Ubisoft ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a les goûts qui évoluent, qui changent en permanence. C'est toujours plus facile pour un studio un peu plus petit de s'adapter et de pivoter. Quand on est une grosse boîte comme Ubisoft, bah à la fois en fait, on a des flux à maîtriser et on veut pas prendre de risques. On le voit aussi dans le cinéma, hein, on en parlait avant. Le cinéma aussi, il s'oriente de plus en plus vers des projets entre guillemets sans risque, et donc du coup, forcément un peu moins d'innovation, un peu moins de prise de risque. La deuxième chose, c'est, je pense, ils ont aussi plus de liberté à se lancer dans des choses qui seraient pas forcément validées dans des grosses entreprises, que ce soit sur un univers un peu foufou, avec un mélange de beaucoup d'inspiration, France Belle Époque, fantastique, etc. Tout ça, c'est des choses où, quand on doit convaincre le top management des boîtes, c'est très compliqué, et qui vont nous dire, vous voulez pas faire un truc américain parce que 50% de notre public est américain. Et en fait, ces exemples-là, après, ils peuvent nourrir au contraire le reste de l'industrie, parce que nous, ça nous sert d'argument en disant, vous voyez bien, en fait, ces gens, ils ont fait un truc qui est basé sur leur expérience, sur ce qu'ils connaissent, et c'est aussi ce que nous, on souhaiterait faire.
Alors, ces dernières années, on en parlait tout à l'heure, il y a eu le grand bouleversement dans le monde du travail, c'était le Covid-19. Alexis Foisy, vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Alors, vous me parliez de jeux faits en 2022. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans le monde du travail au moment du Covid-19. C'est un milieu où vous avez trouvé du travail facilement.
Oui, c'est... Je crois qu'il y en a... Oui, comme on disait, il y en a engagé beaucoup partout à travers le monde. Mais je crois que ça peut être... je pense que ça peut être 50-50. Je connais des personnes qui n'ont jamais pu rentrer dans des boîtes. D'autres qui... comme moi, qui ont été capables de rentrer facilement. Il faut être bon. C'est très contingenté. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être dans ce milieu-là. Moi, quand je suis sorti de l'université, J'ai eu la chance d'avoir pu être pris par Warner. Donc, pour ma part, j'ai pas eu la sensation que c'était compliqué, mais je sais que pour d'autres, ça peut
Et c'est un milieu où vous vous sentez en sécurité ou c'est un milieu qui est précaire? En tout cas, peut-être pas pour vous, mais même dans votre entourage quand vous en parlez autour de vous.
Je crois que dans mon entourage, oui, les gens, c'est ce qu'ils croient. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas le cas. Bref.
Après, le code du travail n'étant pas le même au Canada ou en France, pour revenir à la France, Pierre-Étienne Marx, bon, en revenant au Covid, comment ça s'est passé? Et il y a eu peut-être des changements dans les conditions de travail, mais aussi des changements structurels.
Oui, bah, il y a eu un rebattage des cartes, c'est sûr. En fait, le Covid, c'est la généralisation du télétravail, quelque chose qui avant ça était vraiment à la tête du client, et le plus souvent, en fait, c'était des chefs qui pouvaient limite s'auto-valider ça, et tous les autres n'avaient pas voix au chapitre. Il y a eu un recadrage parce que finalement, les gens aussi se sont entre guillemets exilés, sont partis, ont réalisé leur projet qu'ils avaient peut-être depuis longtemps, de parfois quitter les métropoles parce que le jeu vidéo, pour l'instant, les studios sont très massivement dans les grandes villes de France, hein. En France, les gros hubs, c'est Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Lille. C'est que des grandes villes. C'est cher. Enfin, c'est plus cher que la campagne en général, hein, au loyer. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui sont aussi, entre guillemets, qui sont partis plus loin parce que ils ont rééquilibré ça vis-à-vis de leur salaire et qu'en fait, ils ont eu ce moment peut-être de remise en cause. Derrière, aujourd'hui, on a un peu un retour là-dessus. On le voit dans plein d'entreprises, pas spécifiquement dans le jeu vidéo, mais dont le jeu vidéo. Et c'est tout le combat actuel et toutes les questions actuelles qui sont de savoir, en fait, ces gens qui sont partis, ce rééquilibrage, cette réorganisation qu'on a faite, parce que les jeux, on a continué à les produire. Moi, j'ai continué à bosser, j'ai sorti des contenus pendant tout le Covid, tous les confinements, etc. On a continué. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on revient alors qu'on a des organisations de travail qui ont changé? Et d'ailleurs, même encore plus loin, chez Ubisoft, par exemple, et on n'est pas les seuls, on a une logique où on fait beaucoup bosser plusieurs studios sur un seul jeu. C'est pas un seul studio qui produit le jeu, et parfois même des studios très loin. Donc moi j'ai pu bosser avec des gens en Inde, en Chine, au Canada, donc aux États-Unis. Enfin tout ça fait qu'en fait de toute façon aujourd'hui on n'est jamais tous physiquement dans le même endroit. Ça c'était le jeu vidéo d'il y a 20 ans. Et donc forcément ça pose la question de savoir qu'est-ce que ça gêne en fait que je sois chez moi ou au bureau.
On va y revenir, mais tout d'abord, on va marquer une petite pause musicale. On va écouter pour cela un morceau qui nous vient tout droit de la réalité, mais qui rappellera à certains un jeu vidéo célèbre et sa radio Los Santos. On écoute tout de suite Ice Cube, Check Yourself. Vient tout droit de notre autoradio dans GTA San Andreas, classique du jeu vidéo sorti en 2004 par le studio Rockstar Games, avec un extrait de sa bande-son tout aussi classique. C'était Check Yourself de Ice Cube.
travailleurs de l'ombre.
On est toujours en plateau avec Pierre-Étienne Marx et Alexis Foisy pour parler des métiers du jeu vidéo. Alors on en parlait tout à l'heure, alors on va revenir un peu sur tout ce qui touche aux conditions de travail. Pierre-Étienne Marx, tout simplement, elles sont comment les conditions de travail dans le jeu vidéo en France ?
C'est rude. On en parlait avant, effectivement, on a un code du travail qui protège un peu, mais encore faut-il faire valoir ses droits. Au syndicat, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la majeure partie des gens ne les connaissent pas forcément, ne savent pas comment les faire appliquer. C'est tout à fait naturel, c'est pas une honte. Et c'est en fait les premiers combats qu'on mène, c'est de rappeler aux gens qu'en fait, se faire harceler au travail, c'est pas normal. Travailler des heures sup sans être payé, c'est pas normal. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on doit rappeler et qu'on le fait. Tout ça, ça vient pourquoi ? Ça vient d'un écosystème qui s'est construit, de formation, de studios qui en fait travaillent un petit peu de concert où les formations vont déjà inculquer aux élèves que c'est normal de entre guillemets cruncher. Donc le crunch, c'est des périodes de surtravail en général pour sortir une version du jeu où en fait tout ça s'est normalisé. On va donner des projets énormes aux étudiants et aux étudiantes. On va pas forcément les cadrer suffisamment et donc on va les laisser en fait presque normaliser ce genre de pratique. Du coup, forcément, quand t'as des gens comme ça qui arrivent en studio et qu'il y a des anciens qui peut-être n'ont jamais connu que ça, personne ne va remettre en cause en fait le fait de se dire mais on est vraiment en train de se cramer pour une version de démo au grand chef. Il peut peut-être voir une texture un peu moche, c'est pas grave, personne va en mourir quoi.
Mais en revenant sur le dernier Assassin's Creed, ça s'est passé comment ? Il y a eu un peu de ça ?
Oui, beaucoup. Alors c'est quand même majoritairement donc les équipes. Donc il y a des équipes un petit peu partout dans le monde qui ont bossé dessus. Évidemment, le plus gros des équipes, c'était à Montréal. Donc moi, je sais que forcément, on parle quand même d'un jeu qui a été décalé quasiment 6 mois, hein, puisqu'il était censé sortir fin 2024. Il est sorti en mars 2025. Donc forcément, c'est quand même en général quand on décale, c'est qu'on a beaucoup à corriger et qu'on n'a plus beaucoup de temps pour le faire. Donc ça fait beaucoup cravacher, surtout qu'en général, et c'est le cas pour Assassin's Creed Shadows, il y a du contenu qui est déjà prévu pour après. Il y a déjà de la production en fait qui est en cours à ce moment-là, et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre des équipes qui sont déjà passées à autre chose, ce qui veut dire qu'en fait il y a moins de monde pour finaliser entre guillemets corriger les derniers défauts ou ce genre de choses.
Après, en France, je sais que ça c'est quelque chose dont on a entendu parler ces derniers temps, hein, Pierre-Étienne Marx. Donc il y a eu des actions récentes, hein, dans le milieu, avec une mobilisation de salariés du jeu vidéo le 13 février, il me semble.
Tout à fait.
Il était par exemple question dans votre propre entreprise Ubisoft, et vous en parlez un peu tout à l'heure, de se mobiliser contre la fin du télétravail. Alors le jeu vidéo, ça commence à se syndiquer ou même plus simplement à se mobiliser en France ?
Oui, le 13 février, on avait quand même 20% de l'industrie qui s'est mise en grève. On avait des milliers de personnes sur les piquets de grève dans différentes grandes villes de France. Donc c'est énorme, surtout pour un milieu qui, il y a 10 ans, globalement, était un désert syndical. C'est pas le genre de progression qu'on constate d'habitude. Pour moi, il y a plusieurs facteurs à ça, hein. Il y a effectivement le droit du travail complètement bafoué. Début juin, là, il y a quelques semaines, on était au procès de certains hauts dirigeants d'Ubisoft, ex-hauts dirigeants d'Ubisoft, pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et même des agressions sexuelles. Il y a eu dans les plaidoiries de notre avocate, notamment quelque chose je pense qui était très important, c'était de parler du désintérêt assumé pour le code du travail. C'est-à-dire que c'est pas juste des gens qui enfreignent le code du travail par erreur ou je ne sais pas quoi, par ingénuité. C'est vraiment des gens qui globalement sont à des niveaux de responsabilité, hein. C'est des gens qui étaient par exemple le numéro 2 d'une multinationale de 20 000 personnes et qui globalement expliquent qu'on leur a jamais expliqué qu'ils devaient être des managers quoi.
C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. En fait, le jeu vidéo, on pourrait dire que c'est un milieu qui a un peu grandi trop vite, quoi.
Il y a de ça, je pense qu'il y a la composition de l'industrie aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'industrie, majoritairement, les gens qui y rentrent, c'est des gens qui ont fait des études assez longues, on recrute quasiment que des bac plus 5 hein, dans l'industrie, c'est des gens qui, en général, ont des prêts, Parce que les études sont majoritairement privées, hein, il n'y a que quelques écoles ou formations publiques aux jeux vidéo, et c'est bien dommage parce que du coup, bah, forcément déjà, ça veut dire que ça filtre, hein, il faut avoir les moyens de se dire je vais prendre un prêt sur 40 ou 50 000 euros, c'est pas simple. Et forcément, ça veut dire aussi que c'est compliqué d'arriver et de se dire je vais planter mes pieds là dans le sol et faire valoir mes droits, parce que forcément, quand on est en dette sur des diplômes qui parfois sont assez restreints, parce que par exemple, bah, les game designers, hein, les gens qui designent l'expérience en elle-même, c'est quand même quelque chose où c'est pas évident d'avoir une reconversion. Ça se fait, tout le monde en est capable, mais c'est pas comme par exemple les gens qui sont en programmation, qui peuvent toujours dire ok, moi si tu me traites mal, je me barre et je vais gagner deux fois mon salaire dans la banque.
Et donc là, on va un peu changer de sujet, Alexis Foisy, pour parler d'un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous la voyez arriver dans votre travail ?
Je crois que oui, ça va arriver. Oui, ça va arriver bientôt. Déjà, avec ce qu'on peut voir, ce qui fait juste pour les images faites par l'intelligence artificielle, je crois que bientôt... on va avoir des choses en 3D, si ce n'est pas déjà le cas. Comment ça va être utilisé? Pas évident, on va dire, à savoir si ça va être utilisé de quelle manière. Mais je crois que oui, ça va. L'intelligence artificielle va prendre le dessus un jour.
Et ça vous fait peur pour votre emploi ou?
Ouais, c'est sûr que on peut pas dire non, mais en même temps, je crois que il va toujours avoir resté des personnes derrière pour utiliser cette intelligence artificielle-là. Le mieux, c'est de se divertir dans nos domaines. Je crois que c'est la meilleure chose, mais bon, c'est encore tôt pour se pouvoir dire, mais ça va peut-être arriver plus vite qu'on le croit.
Et vous, Pierre-Étienne Marx, par rapport à... En tant que syndicaliste, vous en pensez quoi, vous, de l'intelligence artificielle ?
Y a plusieurs choses. Hein. On voit qu'il y a une tentation de vouloir supprimer des postes, hein, de vouloir économiser. Celle-là, je pense qu'il y a quand même aussi un peu de fantasme dedans. Et je m'explique, par exemple, en Chine, il y a une entreprise qui avait viré tous ses concept artistes, donc les gens qui dessinent en fait la vision des gens pour permettre de se projeter et avoir une vision commune, etc. Et les ont remplacés par des prompt engineers qui, en gros, leur sortaient des images produites par Midjourney ou je ne sais pas quoi. Et en fait, cette entreprise-là, elle est complètement revenue dessus quelques mois plus tard. Elle a réembauché les concept artistes parce que, de un, en fait, les résultats n'étaient pas si bons que ça. Donc, il y avait un problème de qualité. Mais même au-delà de ça, en fait, c'était pas si rentable que ça. Alors, évidemment, les économies d'échelle, on peut toujours se dire qu'à terme, ce sera rentable. Moi, je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, sur l'IA, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de coûts cachés parce que aujourd'hui, il n'y a aucune des boîtes d'IA qui est rentable, en fait. Donc, l'autre question qui se pose, c'est de dire si aujourd'hui, une boîte fait un pivot là-dessus, est-ce qu'elle est sûre que le coût du service ne va pas être multiplié par 10 le jour où en fait ils auront tué la concurrence, qu'ils auront fait comme Uber, etc., du blitzscaling, et que établi en tant que quasi monopole, ils diront bon bah maintenant il faut que je fasse rentrer de l'argent parce que j'ai des investisseurs qui ont mis des milliards et des milliards dans ma boîte et ils demandent à avoir des retours. Donc je pense que stratégiquement les boîtes devraient faire très attention à ça et beaucoup plus que ce que les dirigeants font. Aujourd'hui, il y a aussi un autre enjeu, c'est que forcément, quand on est un dirigeant d'entreprise, on a tendance à dire « je fais de l'IA » parce que c'est ça que les investisseurs veulent entendre. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Donc il y a un peu un jeu d'équilibre à trouver, je pense, entre dire ce que les marchés veulent entendre parce que c'est comme ça que la thune rentre, et c'est dommage, mais bon, on vit dans cette société-là, et... faire attention à pas vraiment casser son outil de production, parce que nos patrons sont très forts pour faire, parce que effectivement, le problème, c'est que là, l'exemple que je donnais de l'entreprise en Chine, elle a pu revenir dessus, mais il y a un jour où, à force de tout casser, on finira par plus rien avoir. Et là, c'est pas une IA qui fera tout à notre place.
Donc, un peu plus globalement, hein, on faisait un peu cette comparaison, Pierre-Étienne Marx, entre le jeu vidéo et le cinéma ou l'audiovisuel. C'est aussi une éternelle bataille entre financiers et créatifs.
Oui, ben ça, je pense que toutes les industries créatives le vivent à des niveaux divers et variés. Peut-être qu'en France, on le voit moins dans certains aspects, parce qu'on a un financement public qui est un peu plus présent, mais aujourd'hui, je tiens à leur rendre hommage aussi, hein, les camarades de la culture sont en lutte depuis des mois maintenant vis-à-vis du ministère, notamment parce qu'il y a beaucoup de coupes, parce qu'il y a le retour sur le Pass Culture collectif. Oui, le Pass Culture collectif. Oui, je me suis pas trompé, parce que il y a un certain nombre de, enfin parce que voilà, on serre la vis de partout et que c'est directement tapé sur la culture et que indépendamment de la question politique, etc., il y a aussi une question de d'existence de la France en tant qu'entité dans le monde, de rayonnement culturel, on peut le dire, et que ça pose de vraies questions sur le sens de tout ça. Et c'est une vraie question parce que effectivement, si on coupe tout ça, on va se retrouver dans la situation qu'on connaît, par exemple, dans le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo touche de l'argent public, hein. Il y a des aides aux jeux vidéo, notamment le crédit d'impôt jeux vidéo qui est de l'ordre de 40 à 50 millions d'euros par an, donc c'est quand même pas rien. Mais nous, on voit bien que, effectivement, nos entreprises, même si elles se débrouillent pour toucher les aides publiques, elles sont surtout très dirigées par, effectivement, les marchés financiers, les gens qui investissent, etc.
Et alors, pour revenir un peu sur cet aspect culturel et pour ouvrir, pour finir cette émission, toujours dans cette comparaison, hein, on sait que le cinéma est confronté un peu à cette vague réactionnaire anti-woke, comme il s'appelle. Et on voit aussi que l'extrême droite, comme Elon Musk par exemple, s'empare beaucoup de la culture geek. Alors vous, c'est quelque chose, Pierre-Étienne Marx, que vous sentez, hein, sur certaines sorties jeux vidéo
Oui, on parlait d'Assassin's Creed Shadows plus tôt. Assassin's Creed Shadows a subi une vague énorme, en fait, de harcèlement. Enfin, les équipes, hein, ont subi des harcèlements. Toute personne qui était un peu associée à ça pouvait prendre, entre guillemets, tout d'un coup une balle perdue. Et je pense que ça, c'est lié à la fois à la facilité d'organiser tout ça via les réseaux sociaux, internet, etc., avec aussi un côté très, pour moi, artificiel. C'est-à-dire que un certain nombre des gens de cette vague-là, aujourd'hui, ils se revendiquent d'un, entre guillemets, Gamergate 2.0, en référence au Gamergate, qui était un mouvement de harcèlement dans 2014-2015. La différence pour moi, c'est que même si le Gamergate, entre guillemets, 1.0, avait tort sur à peu près tous les aspects qu'il soulevait, il y avait un fond qui était, en gros, une forme de ras-le-bol collectif qui s'exprimait de manière pas productive, de manière même violente et qui a détruit aussi des gens. Mais au moins, je pouvais entendre que ça venait vaguement de gens individuels qui se retrouvaient dans certaines choses. Aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est instrumentalisé par des gens qui font de l'argent avec, puisqu'en fait, c'est des gens qui vendent du contenu, soit vont promouvoir une chaîne YouTube ou je ne sais quoi, où ils vont bloquer les gens sur des heures et des heures pour pleurer sur le contenu des jeux, soit qu'ils vont carrément vendre n'importe quoi sur leur shop à côté, quoi.
Et Alexis Foisy, c'est quelque chose que vous avez aussi au Canada, des polémiques sur des sorties de jeux par rapport à des choses politisées ?
Je crois que oui, puisque aussi au Canada, on sort des jeux. Des sorties mondiales, donc on a le droit à ça. Je crois que est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs, moi je peux pas trop savoir, mais oui, on entend souvent parler. On est aussi à côté des États-Unis, donc tout ça se magouille, il y en a beaucoup, mais oui, en général, on n'est pas à la bonne.
Donc ce sera le mot de la fin. Encore merci Alexis Foisy, hein. Je rappelle que vous êtes artiste de niveau à Warner Bros Game à Montréal au Québec. Merci à vous aussi Pierre-Étienne Marx, syndicaliste au syndicat des travailleurs de jeux vidéo STJV et salarié chez Ubisoft Paris au poste de directeur technique narration. Et c'est la fin de cet épisode de Travailleurs de l'ombre consacré au métier de la conception de jeux vidéo, préparé et réalisé par l'indispensable Thomas Yayani. Un grand merci à lui. Mais aussi à vous de nous avoir écoutés. On vous laisse en bonne compagnie sur Radio Campus Paris.